définir le street art, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de très difficile, car pour reprendre les mots de Christophe Genin, dont voici l'ouvrage, le street art au tournant, la situation est plutôt confuse. On va le voir, le détailler un petit peu par la suite. Mais elle est d'autant plus confuse depuis l'arrivée d'Internet, avec carrément des galeries en ligne, avec tous les blogs, etc., etc., qui ont fait que le street art est visible partout et a été récupéré aussi sur un plan marchand. Et puis, évidemment, le marché de l'art se l'est accaparé. On connaît des célébrités telles que Banksy, par exemple, dont certaines œuvres se vendent carrément plus d'un million de dollars. Hein, il suffit d'aller découper un mur avec un pochoir de Banksy et puis on a gagné le gros lot. Bref, et puis évidemment, il y a toutes les récupérations institutionnelles, les murs peints, etc., etc., les événements, les festivals, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, on trouve ça dans toutes les grandes villes, hein, que ce soit Paris, que ce soit Berlin, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, etc., que ce soit, par exemple, à Lisbonne, dont nous allons voir quelques exemples de récupération, carrément par la municipalité, de ce concept de street art dans la rue. Voilà, donc j'ai choisi de vous montrer Lisbonne, j'aurais pu vous montrer d'autres lieux qui sont devenus carrément institutionnels. Donc vous voyez ici sur cette première photo des panneaux qui ont été aménagés, hein, vous voyez, Galleria de Arte Urbana, qui ont été aménagés pour les artistes du street art. Alors je précise que je mets toujours des guillemets à street art, vous comprendrez mieux par la suite sur les distinctions que je vais faire. Voici sur ce deuxième exemple un mur fait par Pixel Pancho, toujours dans le cadre de la galerie urbaine officielle de la mairie de Lisbonne. En voici un autre sur un bâtiment qui va être détruit, mais il n'empêche que au départ c'est autorisé et ça fait partie de la représentation, un mur des deux frères jumeaux brésiliens, les Os Gêmeos. Évidemment, qui n'a pas vu ces murs gigantesques qui sont commandés par des municipalités, par des quartiers, voire davantage, y compris maintenant des architectes qui intègrent ces fresques dans leurs projets et que d'aucuns considèrent comme un prolongement du muralisme. On en reparlera. Et d'en parler déjà Jean Baudrillard en 1976 dans une partie d'un ouvrage intitulé « Cool Killer » ou « L'insurrection par les signes ». Malgré les apparences, les city walls, les murs peints n'ont rien à voir avec les graffitis. Ils leur sont d'ailleurs antérieurs et ils leur survivront. Oui, jugement de Baudrillard d'ailleurs contredit par la suite, mais pouvait-il le prévoir en 1976, puisque nombre de murs superbes que nous voyons aujourd'hui, hein, qui relèvent un petit peu de la tradition du muralisme, sont en fait des œuvres d'anciens, graffiteurs, comme on doit le dire, on ne doit pas dire graffeurs en principe, moi personnellement j'utilise les deux mots, d'anciens graffiteurs qui sont passés progressivement du graffiti à de la représentation tout à fait différente. C'est le cas de l'Australien Adnate, qui en témoigne dans ce numéro de la revue VNA, et vous allez voir son texte, c'est un très beau témoignage justement du passage du graffiti, et il explique pourquoi, à des personnages qu'il peint sur les murs. Il a d'ailleurs, j'insiste un petit peu là-dessus, il a commencé à peindre ces personnages sur les murs pour rendre hommage aux différentes ethnies originaires des régions d'Australie, etc., et qu'il estime avoir été nié par, on dira, la colonisation à l'époque. J'ai commencé à peindre comme tagueur à l'adolescence et j'étais obsédé par la forme agressive du wild style. Après 10 années à peindre des lettres, la plupart dans le même style, je me suis senti moins motivé et j'ai décidé d'abandonner cela et commencer à peindre des portraits. Je pouvais davantage, directement et instantanément, créer et communiquer des émotions et des sentiments à travers les visages que je peignais. On pourrait considérer que, stricto sensu, le street art n'existe pas au vu de la variété des productions différentes dans tous les styles que l'on a classés sous cette appellation. C'est ce que nous dit par exemple l'artiste aujourd'hui reconnu C215 dont nous allons voir le texte et que je vais commenter. La reconnaissance des arts urbains par le public et les médias atteint des sommets. Pour autant, je m'étonne de l'absence de distinction des différentes pratiques composant les arts urbains. Le regroupement sous le terme « fourre-tout » street art est très commode, mais en but plus qu'il ne clarifie. Voilà, tout est dit chez C215. Il l'a redit à différentes reprises, il me l'a dit à moi-même d'ailleurs. Et puis, je profite de cette image que vous voyez avec ce texte. Vous voyez un portrait d'Einstein, donc j'en profite pour remercier C215 qui nous a donné le droit, Jean-Marc Ginoux et moi-même, pour un livre sur Einstein, d'utiliser ce pochoir, ce portrait d'Einstein. Street art, art urbain. On pourrait se contenter du sens de ces deux expressions pour définir de quoi il retourne. Mais nous allons voir justement dans ce qui va suivre que ce n'est pas forcément dans la rue, pour la rue et les passants, comme on a tendance à le dire. Et nous allons vous montrer par la suite des lieux complètement différents où le street art, le graffiti et même le muralisme s'expriment de façon admirable. Et ça n'est pas dans la rue, ça n'est pas pour les passants. Mais pour commencer, que peut-on trouver de commun entre les graffitis de Pompéi, par exemple, dont parle Brassai dans ce fameux ouvrage Graffiti de 1960, ouvrage qui relève de l'anthropologie quelque part, les graffitis que l'on peut voir sur des tableaux de maîtres, y compris des tableaux bucoliques, montrant que les graffitis existaient à toutes les époques, etc., etc. Et puis, par exemple, ce qui est apparu dans les années 60, et nous verrons que nous allons parler d'une frontière justement en 1960, et dont voici quelques exemples, à commencer par Ernest Pignon-Ernest, que voici. Ernest Pignon-Ernest, que nous voyons sur cette photo lors d'une rétrospective de son œuvre au Musée d'Art Moderne de Nice en 2016, et puis j'ai tenu à y mettre justement ce portrait que vous voyez en haut de C215, portrait d'Ernest Pignon-Ernest, fait par C215 dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis passons à un autre personnage dont les œuvres sont apparues sur les murs dans les années 60, Gérard Sloty-Camien, dit Sloty, qui a été un artiste reconnu, qui a encore fait un mur récemment, à 80 ans, et qui a été jugé, un procès dans les années 80, pour ce qu'il faisait justement sur les murs. Et puis Jeff Aerosol, là aussi, et je tiens quand même à donner le détail de cette photo. C'était lors d'un vernissage d'une exposition de Jeff Aerosol, une vente dans la galerie Pusquo à Marseille, et vous voyez la même œuvre sur un mur, c'est-à-dire que Jeff Aerosol est resté fidèle à l'aspect dans la rue pour la rue. Il avait fait rue Sainte à Marseille la veille, les mêmes pochoirs que ceux qu'il vendait dans la galerie Pusquo. Et puis évidemment, qu'y a-t-il de commun aussi entre les graffitis de Pompéi dont parle Brassai et les graffitis d'aujourd'hui et les différents styles qui sont apparus au fur et à mesure que les nouvelles techniques se développaient, ne serait-ce que les bombes aérosols, hein, les sprays comme on dit, et les différents lettrages qui ont évolué. Il y a toute une histoire à faire de ces lettrages. Vous en avez quelques exemples sur cette photo, les fameux lettrages qui font partie maintenant de l'histoire de l'art. Et quel rapport aussi entre le muralisme, on peut penser à Diego Rivera et au muralisme mexicain suite à la révolution mexicaine de 1910, et ce que réalisent sur les murs d'anciens graffeurs en particulier, mais des artistes au style vraiment différent. On a vu Os Gemeos tout à l'heure, et on peut parler de Vils, le portugais, qui a un style en plus très particulier, à savoir le scratching. Voici donc ici deux œuvres de Vils réalisées à Lisbonne. Ces photos ont été prises en 2017 et comme vous le voyez, les bâtiments ont été détruits l'année suivante. Et je précise donc, on voit bien le principe du scratching, à savoir il enlève de la matière sur les murs et fait apparaître ce qui est dessous, et c'est ce qui fait apparaître le visage, et c'est d'une précision extraordinaire. On ne peut donc répondre à ces questions sur la définition du street art que de façon ambiguë. Certains décrivent le street art, on dira, depuis carrément l'âge des cavernes, jusqu'au drone painting, à savoir les nouvelles technologies appliquées à l'art dit urbain. C'est le cas, par exemple, de Bernard Fontaine dans cet ouvrage, Découvrir et comprendre le graffiti, mais il se place sur un aspect historique, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les cavernes, on a déjà des pochoirs, puisque dans le street art, on classe la catégorie pochoir, et bien dans les cavernes, on a des pochoirs. Les mains qu'on voit sur les murs des cavernes, la technique du pochoir était déjà maîtrisée. Mais le mot street art, ensuite, qui l'a défini? Pourquoi street art? Eh bien, il faut remonter à Alan Schwarzman en 1985 et à son ouvrage intitulé Street Art, tout simplement. Voilà. C'est le début de cette appellation, de ce mot fourre-tout, comme le disait C215 tout à l'heure. Oui, en outre, en matière de street art, des études historiques ont déjà vu le jour, hein, ont été publiées, et elles remontent en gros sur une quarantaine d'années. C'est-à-dire on ne remonte pas au graffiti ou aux œuvres des cavernes ou aux graffitis de Pompéi, qui sont pourtant passionnants. Bien. Donc, une quarantaine d'années. Alors, cela pose la question de délimiter la période sur laquelle nous allons parler de street art. Et on a vu le livre de Brassailles tout à l'heure, Graffiti, qui, à mes yeux, est une véritable frontière. Certes, Brassailles a photographié, mais pas beaucoup, des graffitis qui ressemblaient ou qui faisaient penser à ce qu'on appelle graffiti aujourd'hui, mais c'était surtout des messages sur les murs. Mais c'est à partir de 1960 que sont apparus sur les murs tout ce que nous classons aujourd'hui, toutes les choses que nous classons aujourd'hui sous l'appellation street art. Hein, on a vu avec Zsolti Kamien, on a vu avec Ernest Pignon-Ernest, et puis après on a vu avec les différents lettrages, etc., etc. Donc je dirais que pour ma part, je circonscris le street art en gros à la période 1960 aujourd'hui. Et c'est à peu près communément admis chez les historiens de l'art, puisque le street art fait partie de l'art aujourd'hui. Et il fait partie de l'art au sens de l'artification, à savoir le passage de quelque chose de l'état de non-art à l'état d'art. Alors, artification, le mot est un néologisme qui a été créé par Nathalie Hennich et Roberta Safiro dans un programme de recherche justement sur ce concept de passage de non-art à art, pas que sur le street art, et dans l'ouvrage. Et qui s'est traduit par cet ouvrage de l'artification, Enquête sur le passage à l'art, paru en 2012, dans lequel il y a un chapitre consacré effectivement au street art. Mais justement, ce chapitre consacré au street art reste dans les normes du jugement des historiens de l'art, à savoir qu'est-ce qui est art et qu'est-ce qui ne l'est pas, et finalement en revient à c'est devenu de l'art parce que c'est exposé dans des galeries, parce que c'est exposé dans des musées et parce que des livres d'art sont consacrés au street art. Ce qui est quand même un peu insuffisant, même si l'auteur du chapitre, puisque c'est un livre collectif, fait un petit peu référence à la pratique et puis au rôle d'Internet aussi dans la reconnaissance du street art. Après se pose la question de l'aspect anthropologique du travail sur l'histoire du street art et du graffiti en particulier. Nathalie Hennich a toujours revendiqué, sociologue de l'art, hein, et qui a fait un travail admirable, a toujours revendiqué l'aspect empirique, l'aspect sur le terrain dans ses recherches en sociologie de l'art. Mais sociologie est un mot peut-être un peu trop réduit par rapport au travail qu'il faut vraiment faire, à savoir effectivement être sur le terrain avec les acteurs, mais c'est un travail, je dirais, anthropologique. Et il faut comprendre comment fonctionne les graffeurs, que ce soit dans la rue ou que ce soit dans des lieux qui ne sont pas la rue dont nous allons, que nous allons visiter tout à l'heure, en compagnie de certains artistes, justement. Et j'aime citer à ce propos ce texte de Neubé, que vous allez donc voir maintenant, et que je vais vous commenter. Voilà donc ce texte de Neubé, artiste du Kremlin-Bicêtre, qui est aujourd'hui exposé dans des galeries, qui est commandité par sa municipalité pour décorer des murs, et donc il avait édité ce livre il y a une dizaine d'années, Je cours toujours, et dans lequel il écrit ce passage que je trouve significatif par rapport à ce dont je viens de parler. Je le lis. « Quel plaisir de sentir dans mon sac les bombes s'entrechoquer, de marcher vers un lieu inconnu. Peinture, cap, rouleau, tout est prêt. Dernier coup d'œil à 360 degrés. C'est parti, l'instant est magique. Tel un bâton de dynamite, les teintes explosent. Les peintures éclaboussent et les murs, ivres de couleurs, se dégrisent, laissant apparaître un carnage doré. » Il nous en dit beaucoup dans ces quelques phrases. Le lieu inconnu, le plaisir, le matériel qui est dans le sac, et puis ce dernier coup d'œil à 360 degrés, la peur, le risque, puisqu'il peut se faire attraper, il peut se faire dénoncer, c'est parti, et l'instant magique, à savoir le bâton de dynamite, les teintes qui explosent sur les murs, etc. etc. Et ça, j'ai rarement vu dans des études sur le street art, voire sur le graffiti, pris en considération cette dimension-là. Et c'est là le problème de ce que j'appelais l'aspect anthropologique. Il faut être avec les artistes. Il faut les voir réfléchir. Quand ils sont seuls ou quand ils sont en crew, comme ils disent, c'est-à-dire les crews, c'est une bande, hein, c'est une équipe. Il faut les voir faire, les voir réfléchir ou pas lorsqu'ils peignent avec leur spray, leur rouleau, etc. La spontanéité et l'élan du geste font partie de l'œuvre. Ils le revendiquent d'ailleurs. Et cela, les historiens de l'art ne le mesurent pas. De même que les conditions de réalisation, le risque physique, sur les hauts murs et les ponts par exemple, il y a un risque physique, ou celui d'être repéré et poursuivi par la police. Certains vous disent même que c'est aussi le but du jeu, d'être poursuivi par la police. Ça les stimule encore plus pour faire leurs œuvres. Donc tout cela fait partie de l'œuvre finie. Ce sont des défis qu'ils se lancent et qu'ils lancent aux autres, qui font partie de l'œuvre et qui la justifient. Reste le problème donc de définir le street art, art de la rue, art urbain, à savoir ce qui est vraiment, ce que sont vraiment, pardon, les lieux d'expression de ces artistes. Or, on oublie très souvent, les historiens oublient très souvent, ou ne les connaissent pas d'ailleurs, les lieux de l'urbex. Alors, urbex, urban exploration, c'est un genre très pratiqué de plus en plus, et il faut voir le nombre de comptes Facebook et Instagram de gens qui vont dans ces lieux, à savoir ce sont des lieux construits par l'homme et abandonnés. Ça peut être d'anciennes usines, d'anciens magasins, des friches industrielles, des friches ça peut être aussi des tunnels, ça peut être aussi enfin, des cathédrales même, des cathédrales abandonnées, des églises, etc. etc. Il y a énormément d'images sur internet là-dessus. Et c'est très rare que dans les ouvrages sur le street art, on y fasse référence. Quelqu'un en parle de façon conséquente, c'est Magda Danitz, dans son livre « Anthologie du street art », que voici, où elle fait un passage assez intéressant sur ces lieux de l'urbex. Or, dans ces lieux de l'urbex, il y a des œuvres absolument magnifiques, et en même temps, il y a l'histoire du graffiti, et en même temps, il y a l'histoire de ces crews, de ces bandes qui s'y retrouvent, et de l'émulation qu'il y a entre eux, etc., etc. Ça se voit. Voilà. Et donc, si on veut écrire une histoire du street art au sens 1960 aujourd'hui, il faut tenir compte de ces lieux, et ça va être la deuxième partie de notre documentaire, puisqu'on va aller dans l'un de ces lieux. Mais je tiens à montrer un exemple de ces lieux-là que j'ai ici, à savoir les anciens magasins généraux au bord de l'Ourcq à Paris, et cet ouvrage qui est magnifique, ouvrage de photo, qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, mais je tiens à vous montrer quelques photos. Je le feuillette avec vous, n'est-ce pas ? de ces magasins généraux que les Parisiens connaissaient tous pratiquement, puisque on passait devant ces immenses magasins au bord de l'Ourcq à Paris. Je pourrais feuilleter, faire défiler les pages et avec tous les exemples de style, de graffiti, etc., etc. Voilà, donc maintenant, nous allons arrêter là pour mon discours un peu théorique, et nous allons passer dans un de ces lieux avec toujours le problème de ces lieux urbex, à savoir, a-t-on le droit d'y aller, n'a-t-on pas le droit? Là aussi, c'est un défi. C'est à nos risques et périls, très souvent. J'y ai fait des reportages, hein, j'ai même publié quelque chose sur l'un d'entre eux, à savoir les chantiers navals de la Seine, sur mer. Et nous y allons avec trois artistes, dont je donne les blazes. C'est à eux de nous dire s'ils veulent donner leur nom et s'ils veulent en dire un peu plus, puisqu'ils vont être interviewés, à savoir Nictou, A16 et Noips. Et bien voilà, comme je vous l'ai annoncé, ce lieu urbex que je ne pourrais pas nommer précisément, évidemment, les règles de l'urbex l'imposent, et en plus de ça, le lieu en lui-même l'impose aussi. Vous allez le découvrir, et vous allez même assister à une prestation d'artistes du graffiti street art, et voir les œuvres qu'on peut trouver sur ces murs, à la fois au niveau des lettrages et des différents styles de lettrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi des œuvres peintes qui pourraient être peintes sur des murs en ville et applaudies par les passants. Voilà, je vous parlais d'œuvres sur les murs, en plus des graffitis. Eh bien, en voici une que je tenais particulièrement à vous montrer dans ce lieu étonnant. Je vous explique pourquoi. D'abord, à droite, vous voyez ce dessin, je dirais. Eh bien, en fait, ce n'est pas un dessin, c'est un lettrage fait par Code 2, c'est signé. Code, il faut l'appeler. Et en fait, c'est un code. Et je pense que même les plus grands spécialistes des codes et du décodage n'arriveraient pas à décoder ce qui est là. Je l'avais un peu expliqué dans un numéro de la revue Quadrature, destiné aux classes prépa et aux professeurs des classes préparatoires, etc. L'artiste avait fait la couverture de ce numéro. C'est extraordinaire. Il a inventé un code extraordinaire. Vous en avez un exemple sous les yeux. Et avec lui, à gauche, ce tigre. Alors, fait par Sark, vous avez sa signature en haut, donc ce sont leurs blazes, hein, leur surnom. Et j'en profite pour vous parler du binôme, c'est-à-dire que très souvent, les artistes du graffiti fonctionnent en binôme. Bien là, voilà, c'était, et c'est toujours, le binôme Sark-Codeux. D'où ce... Et ils sont chacun est dans son style, mais en même temps, ils conviennent d'avance des codes de couleurs qu'ils vont utiliser, c'est-à-dire que c'est à la fois deux œuvres et une œuvre unique. Et ça, c'est fondamental aussi pour comprendre certaines des choses qui sont sur les murs, que ce soit les murs dans la rue pour les passants, comme je l'ai dit, ou dans les lieux urbex, comme ici. Voilà. Voilà, après le tigre de Sark, voici ses mains, ici. C'est la façon de peindre de Sark, il fait de très beaux portraits, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur ce dessin qu'il a été toyé. C'était le prétexte pour définir l'expression toyé. Toyé, dans le graffiti et le street art, c'est quand quelqu'un est venu repasser dessus, inscrire quelque chose dessus. Ici, très certainement, cet œil au milieu. C'est une façon de revendiquer quelque chose ou de se venger des fois de l'un ou de l'autre. On vient et on toille, on rajoute des choses dessus. Alors ça peut être très très mal vécu. Il y a eu de sacrées bagarres et sacrés règlements de compte à cause du toillage, mais ça fait partie aussi de l'histoire du graffiti et donc de l'histoire du street art. Voilà, nous avons vu deux œuvres de Sark, donc on en voit deux de Code ou Codeux. Donc vous voyez cet œil. Et en même temps, il y a un message aussi avec les formes
qui constitue l'œil. Donc on est aussi à nouveau sur quelque chose qui est dit selon son code. Mais j'en profite pour vous parler aussi de ce que vous voyez en haut à droite. Donc oui, il a signé de différentes façons, code 2, code 2, etc. Mais vous voyez aussi écrit OPK par exemple et OVB. Alors ça, c'est aussi la tradition chez les graffeurs, à savoir le nom de leur crew, de leur bande, de leurs équipes. Ils peuvent appartenir à plusieurs équipes ou à plusieurs genres, et donc ils les affichent sur leur réalisation. Donc ici, là, OPK, c'est Old Painting Crew. Ils ont remplacé le C de crew par K, Old Painting Crew, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à l'histoire du graffiti et ils lui rendent hommage à travers ce crew. Et l'autre, OVB, vous allez en sourire, au départ, c'était le crew, l'équipe On Vous Baise. Bon, qui est devenu, on en plaisante souvent, On Va Bien, suivant les circonstances, mais au départ, c'était ça. Et là aussi, j'en reviens à l'aspect anthropologique de la question, à savoir, quelqu'un qui voit ça sur un mur ne peut pas se douter du sens de ces mots, de ces lettres, etc. Et puis, si vous regardez en haut à gauche, il y a la tradition, l'habitude aussi de mettre les noms de leurs amis. Bon, là j'ai eu l'honneur, c'est un peu prétentieux de montrer ça du coup, j'ai eu l'honneur de faire partie des amis, j'ai cet honneur, donc mon prénom apparaît. Et puis ils adorent mon chien, qui s'appelle Fanny, ma chienne, berger malinois. Du coup, le nom de ma chienne apparaît aussi sur ce mur. Et elle apparaît d'ailleurs sur beaucoup de murs, y compris dans des pays étrangers, ce qui est assez étonnant. Voilà, c'est l'aspect un peu anecdotique et humoristique aussi de ça. Et on peut les en remercier, parce que c'est vraiment une fidélité à l'amitié. Bien, MeToo donc devant nous, c'est son blaze. Après, libre à lui de nous dire comment il s'appelle ou s'il ne veut pas, on verra. Donc j'ai envie de te demander un peu ton histoire par rapport au graphe, par rapport au street art, ce que tu penses du mot street art, etc. etc. Et puis que tu nous dises un peu aussi ce que tu penses des lieux urbex par rapport à la rue, parce qu'on dit... c'est dans la rue, pour la rue, et c'est pas ça. Ici, on n'est pas dans la rue. Voilà. Et puis, ce que tu viens de faire, qui est derrière toi, là, donc un alphabet, c'est assez intéressant. Et le style de lettrage, etc. etc. Enfin bon, bref, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Donc, c'est à toi de parler, c'est pas à moi.
Moi, j'ai commencé le graffiti en 98. J'en avais pris plein dans les yeux quand j'étais en banlieue parisienne pendant mon adolescence. Et en 98, un beau jour, j'ai rencontré un pote qui est toujours mon ami, hein, qui est devenu mon maître Jedi ensuite. Il a peint devant moi et quand j'ai vu que c'était quelqu'un de normal et de classique qui était capable de faire ça et que c'était pas un gros cliché, c'est pas un truc de gang ou de machin ou autre comme on peut souvent l'entendre, j'ai tout de suite accroché. Alors moi, j'ai toujours été dans la culture hip-hop depuis très jeune. Je dansais beaucoup quand j'étais petit. Après, quand j'ai accroché la peinture, j'ai arrêté tout le reste et je me suis mis dans le graphe à fond. Et bon, moi, j'aime bien faire des lettres. Et j'ai toujours eu cet esprit de participer à la culture hip-hop en fait, en faisant ma peinture. J'avais besoin d'alimenter quelque chose de positif que je trouvais qui meublait bien nos journées plutôt que de faire des bêtises ou autres quand on est jeune. De mettre des couleurs dans ma vie, dans celle des autres et de trouver des endroits comme celui-ci où, qui sont gris, plein de béton et auxquels peu importe ce que les gens disent, mais je pense qu'on leur donne une deuxième vie. Et vis-à-vis du street art, moi c'est un terme qui me fait toujours sourire parce que, comme je l'ai dit, je suis issu de la culture hip-hop, donc je me suis retrouvé après étiqueté street artiste comme d'autres à partir du moment où je me suis retrouvé à faire des toiles. Toiles qu'on m'a demandé, je produis qu'à la commande, je ne fais pas de toiles sinon, c'est pas mon truc, moi c'est les murs. Donc en fait, le street art est complètement indépendant de la culture hip-hop, c'est un terme qui a été créé pour amener le graffiti dans les galeries à la base, selon moi. Et pour faire plus, je sais pas, plus hype ou plus tendance pour les gens des galeries je sais pas, peut-être qu'il y a trop de clichés derrière le graffiti et que du coup ils n'acceptent pas ce mot-là. Moi je fais du graffiti, ça c'est sûr. Après, le street art, je laisse ça aux autres, en fait. C'est eux qui décident si ça en est ou pas. Moi, c'est pas mon truc. Là, aujourd'hui, on a fait un petit mur rapide, on avait qu'une petite heure, il y a le coup en feu. Donc, je me suis fait une punition, j'ai fait un alphabet. Voilà. J'ai fait une première esquisse, elle était trop grosse, la deuxième, elle m'a pas plu, la troisième, elle m'a énervé. Donc, j'ai décidé de faire violence, donc j'ai fait un alphabet complet. J'avais qu'une heure, donc il n'est pas spécialement coloré, contrairement à ce que je fais d'habitude, mais au moins, voilà. J'ai dû dessiner toutes les lettres. Ça me change de mes habitudes où je marque mon nom en général. Et donc du coup, je dessine souvent les mêmes lettres, même si je les dessine différemment. Donc là, ça me permet d'aborder d'autres lettres, d'autres formes. C'est un bon exercice. Et après, on est dans un lieu qui s'y prête. On a le temps de faire à peu près ce qu'on veut dans les endroits comme ça. Puisque on va pas risquer de plaintes ou de gêner le voisinage. Ou, voilà. On n'est pas en train de faire du vandalisme dans la rue, on est tranquille. Donc on est posé, les affaires elles sont là, on a le temps de discuter, de partager.
On attend la police.
On attend la police. voilà, au moins on a le temps même de plaisanter, contrairement à quand on peint dans la rue. Voilà. Donc après, je pense que, comme mes compères à côté, j'ai peint dans la rue tout ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'arrive à un âge où c'est pas que j'ai plus envie de le faire, mais c'est que je vais le faire différemment, beaucoup moins. J'ai plus besoin de vraiment le faire. De temps en temps, j'ai envie, donc je le fais, mais plutôt à l'étranger. En France, ça m'intéresse plus de me faire remarquer dans la rue bêtement et de prendre des risques, en fait. J'essaie de minimiser les risques. Je crois que vieillir, c'est prendre conscience de ses peurs. Donc voilà, je crois que j'ai eu. J'aime bien prendre mon temps et partager. Je trouve que c'est important. Comme je disais tout à l'heure, moi, dans la culture hip-hop, le truc, c'est le positif, quoi. Donc, la bonne énergie, et je pense que c'est ce qu'on fait. Voilà, on passe un bon moment ensemble, en plus de faire ce qui nous plaît. Après, vis-à-vis de l'urbex, ouais, on est dans un site d'urbex, ça c'est sûr. Les endroits où on ne risque pas de plainte et de poursuite pour nous, les graffeurs, c'est ce genre d'endroit, les endroits où on peut faire de l'urbex. Après, bon, c'est sûr, il y a des gars qui font de l'urbex dans des trucs où on n'a vraiment pas le droit. Mais voilà, moi, pareil, le terme d'urbex, je trouve ça, contrairement au street art, je ne vais pas en rire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais de l'urbex avant de connaître ce mot-là. Donc, tout simplement en découvrant des lieux comme ça, où je pouvais aller peindre tranquille.
Il est récent, ce mot.
Il est relativement récent, hein. Je pense que c'est à peu près l'ère Internet, YouTube qui a amené ce terme-là. Donc voilà, moi en 98, j'avais pas d'appareil photo numérique, j'avais pas tout ça. Il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a maintenant, donc je ne connaissais pas du tout ce terme, mais apparemment je faisais de l'urbex. Donc, j'aime bien me balader dans ce genre d'endroit aussi, par pur plaisir, pour découvrir des lieux qui ont une histoire. Ici, nous sommes dans un lieu assez chargé d'histoire, et je ne vais pas en dire plus parce que sinon on va gagner un droit. Mon grand-père a travaillé dans cet endroit, ça je le sais, après j'en sais pas plus. Mais je trouve ça sympa de pouvoir découvrir des lieux. Et en plus, du coup, c'est une pierre de coup, quoi. En plus, on peut peindre quand on est graffeur, donc c'est plutôt sympa comme endroit.
Bien, autour de Noix.
Je ne dis pas ton prénom puisque c'est à toi de le dire. Hein. Moi, après, je respecte l'anonymat et le blaze. Bon, je vais te poser la même question. Canitou, c'est-à-dire un petit peu ton parcours, etc., etc., sachant que j'ai connu un peu ton parcours actuel, puisqu'on était tous les deux ensemble avec une ministre à une inauguration d'une grosse exposition au ministère de la Culture sur la fameuse L2 de Marseille, donc bon, c'est un parcours quand même particulier, et puis voilà, que tu me racontes un peu ce parcours rapidement, et puis après, ce que tu penses aussi du street art, etc., et puis ce que tu nous as fait derrière toi, là, qui devient de plus en plus obscur vu que le jour commence à tomber.
Un peu, ouais.
Voilà, donc je te laisse la parole.
Alors ben, je m'appelle Philippe Lacoste, donc je n'ai pas peur de le dire.
Wow.
J'ai commencé le graffiti en 1991 en fait, où une époque où le graffiti était un petit peu dans une phase descendante sur Marseille. Il y avait eu toute une première vague en fait de graffeurs qui avaient complètement retourné la ville. Et à ce moment-là, en fait, il y a toute une génération qui, par le rap, par le hip-hop, par divers courants qui, à ce moment-là, poussaient un petit peu chez les jeunes à en fait, un peu s'exprimer dans la rue de manière très personnelle, je dirais, au départ, puisque, bon, il suffisait simplement de se trouver un pseudo et d'aller le coller un peu partout. Et progressivement, ça a amené en fait à créer des pièces de plus en plus grosses. Moi, j'ai toujours aimé aller sur des terrains ou à des endroits où en fait on avait un peu le temps de réfléchir à ce qu'on faisait, de poser les couleurs correctement. Et progressivement, en fait, ça m'a amené à créer des fresques de plus en plus complexes, de plus en plus chargées en couleurs, chargées en éléments. Voilà, c'est un peu ça, on pourrait dire que c'est la première partie. J'ai évolué dans différents groupes dans les années 90, des petits groupes et des groupes un peu plus importants, au contact après de personnes qui, elles, faisaient vraiment du graffiti leur leitmotiv, hein, des gens qui sortaient toutes les semaines, tous les soirs, etc. Et voilà. Et progressivement, là aussi, moi, chez moi, est née un peu l'envie de travailler dans le dessin. Alors, il n'y a pas de filière qui amène au graffiti ou à la fresque en général. Moi, j'avais un peu des affinités avec le design produit, tout ce qui est création d'objets. Et c'est quelque chose qui m'a mené en fait à faire des études jusqu'en BTS et qui m'a appris surtout à mettre des mots sur mes dessins, sur mes créations. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est assez important pour comprendre ce que je fais et essayer d'expliquer ça aux gens, quoi, voilà. Après, professionnellement, je voulais aussi rester dans le monde du dessin. Je suis de Marseille. Marseille, au niveau culture, c'est quelque chose de très peu développé, très peu soutenu. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je travaille peut-être avec justement le graffiti, qui était quelque chose qui parlait un petit peu à tout le monde et qui permettait de toucher plus de gens assez rapidement. Si je n'étais pas du tout dans un trip travail en galerie, travailler pour exposer des toiles, créer des expos, etc. Ça, c'est quelque chose qui me vient progressivement à l'idée, qui est quelque chose que j'aimerais vraiment développer plus tard. Mais bon, c'est pas pour immédiatement, là, pour l'instant. Je m'occupe de fresques, de commandes que des professionnels, des municipalités me demandent. Voilà.
Bien, A16, donc, l'autoroute du Graff. C'est d'ailleurs signé derrière toi, sur ton mur. Je vais pas te poser les mêmes questions, mais c'est les mêmes, évidemment. Et puis, te demander un petit peu ton parcours et puis ce que tu envisages pour la suite. Mais je sais que chez toi, c'est juste, c'est que le plaisir.
Ouais, c'est que le plaisir.
C'est que le plaisir, on en a déjà parlé. Tu peux nous en dire un peu plus?
Eh ben, je m'appelle Arnaud, donc A16, écrit comme ça ou en toutes lettres, souvent en toutes lettres, avec une belle faute d'orthographe, il n'y a qu'un S. Moi, j'ai commencé le graffiti en 98-99. Je suis parti vivre à Lyon pour différentes raisons. Et en arrivant à Lyon, j'habitais dans un quartier. Donc moi, je suis issu vraiment d'un milieu rural. Il n'y avait pas du tout de graffiti. Je suis issu du milieu punk, donc pas du tout du milieu hip-hop. Et je suis arrivé en ville et un jour, il y avait un terrain vague à deux pas de chez moi. Et j'ai vu un mec rentrer par la fenêtre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, celui-là? Et du coup, je suis allé voir. Et là, j'ai pris une claque phénoménale. Il y avait des graphes de Brusque, des KMF, de Acétone. C'était absolument génial. Et là, je me suis dit, ça, je veux le faire. Et j'ai commencé. J'ai fait des grosses merdes. Des gros caca. Des dossiers que je ne ressors pas. Et au final, j'ai pas trop fait les tables d'école, c'est pas trop mon truc, les tables d'école. Un peu de lettrage au début, puis finalement je me suis rapidement tourné vers le perso. Aujourd'hui je fais exclusivement du perso, sauf aujourd'hui parce qu'on n'avait qu'une heure, et puis on est là, on est entre nous, on s'est dit on fait de la lettre, on fait de la lettre. Mais c'est pas du tout mon truc, ce qui explique la croûte. Et voilà. Et est-ce que je veux en faire du graffiti ? Ben pas grand-chose, parce que jusqu'à maintenant, j'ai un métier qui me nourrit convenablement. J'ai pas besoin, je peux pas dire j'ai pas besoin d'argent. J'ai envie d'argent, mais je n'ai pas besoin d'argent, si, c'est ça. Voilà, donc j'ai pas besoin d'une activité supplémentaire. Il m'arrive parfois de faire des commandes, on me paye pas, ça dépend des gens. Si je fais une peinture dans une piole d'enfant pour quelqu'un qui a pas de finances, je vais pas lui faire payer. Voilà. J'ai pas le temps de prospecter aussi non plus. De temps en temps, on m'appelle, mais moi, je prospecte pas. Là, ma vie va changer incessamment. Peut-être que je peux être amené à peindre plus, je vais voir. L'avenir me dira. Moi, je le fais pas pour plaire. Je le fais parce que moi, ça me plaît. Je le fais parce que j'ai envie de faire passer des messages. C'est pour ça que je fais du personnage plus que de la lettre. Parce que dans la lettre, j'arrive pas. Je dis pas qu'on peut pas le faire, mais moi, je fais pas passer de message par la lettre. J'ai pas assez de technique pour ça. Du coup, le figuratif, c'est plus simple pour expliquer aux gens ce qu'on veut dire. Et du coup, je fais plus du figuratif, des visages, des choses plutôt poétiques en général, un peu crades aussi. J'aime bien les choses qui peuvent choquer. Voilà. Mais si je reste politiquement correct, je pense, en général. Si ça plaît, tant mieux. Moi, ça me plaît. Voilà.
Sur le hip-hop, parce que le graphe est souvent associé au hip-hop. Alors toi, Noël, tu l'as associé directement, puisque c'est la musique qui va avec pour toi, et je le vois aussi à chaque fois que tu fais quelque chose, il y a du hip-hop quelque part.
Moi, j'ai grandi avec ça, et j'ai tout de suite intégré mon graffiti dans le prolongement de la culture hip-hop dans ma tête, quoi. Après, quand j'ai fait un peu de recherche sur l'histoire du graffiti, j'ai compris que ça existait avant. C'est sûr que ça a été... je dirais pas rattrapé, mais ça a été englobé dans la culture hip-hop, et c'est vrai que c'est une période où le graffiti a vraiment explosé en même temps que le hip-hop.
Et c'est vrai qu'après, la plupart des gens qui parlent du graffiti l'associent au hip-hop, alors que le heavy metal a eu ses représentants du graffiti, tous les courants de la musique, et des styles différents, justement, pour dire nous on est ça, et on est telle musique, on n'est pas telle musique. Bon, c'est pour ça que je voulais vous en. Tu as parlé aussi du hip-hop, Philippe, dans les années 90 à Marseille. Bon, c'est vrai que c'était la musique des jeunes de l'époque. Et tout ça,
quand IAM a explosé,
c'était la musique phare, vraiment.
Après, si tu veux, un bon exemple au niveau du rapport graffiti et hip-hop ou pas, moi j'ai en tête, vous l'avez vu, Style Wars.
Oui.
Tu l'as vu ? Tu l'as pas vu ? Je te le conseille, c'est la Bible.
J'ai pas une grande culture graffiti.
Non, mais c'est justement. Et dans Style Wars, t'as le Sin, donc un des anciens de New York, qui a demandé au monteur. Comment il s'appelle ? Henri Chalfant.
Oui, Chalfant.
D'intégrer, quand il montre ses œuvres qui passent sur le métro new-yorkais et tout, de mettre les musiques qu'il écoutait lui. Mm. Donc c'était I'm a Wanderer, je crois, la chanson. Mm-hmm. Wanderer, tu vois ? Voilà. Qui n'est pas du tout hip-hop. Et lui, il le dit de lui-même, quoi. Moi, je fais du graffiti, mais j'ai rien à voir avec le hip-hop et le rap, quoi. C'est pour ça que j'ai demandé à avoir cette musique-là en fond.
Parce que, bon, lui, c'est un ancien, et Chalfant, le film, il date de.
82.
Voilà, j'allais dire début des années 80. Et les anciens, c'était les années 70, en gros, 70-75, et le hip-hop n'existait pas encore. Alors, c'est pour ça que...
C'était quelque chose d'indépendant, voilà, vraiment.
Ben moi, j'ai pas du tout une culture hip-hop, et ça explique que je pense ne pas du tout faire de graffiti. Moi, j'estime pas être graffeur, faire du graffiti. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est du graffiti, parce qu'on m'a demandé de faire de la lettre. Mais quand je fais des gros persos, hormis le fait qu'ils soient faits à la bombe et sur des terrains où en général c'est un lieu de graffiti, mais j'estime pas vraiment faire du graffiti. Si je savais manier le pinceau, peut-être que je le ferais au pinceau, ce que je fais. Mmh. Bon, là, la bombe, ça permet des formats bien, bien plus géniaux, des dégradés, plein de trucs. C'est un bel outil. Mais je suis pas issu du hip-hop du tout. J'ai pas une culture graffiti énorme. Voilà, je le fais comme ça, c'est un outil, mais j'estime pas faire du graffiti forcément. Toi, tout à l'heure, tu disais street art, c'est un mot qui a été inventé. Ben, moi, si je devais me cataloguer dans quelque part, plutôt que dans le graffiti, je me mettrais plutôt dans du street art, tu vois. Parce que déjà, ce que je fais, bon, en même temps, c'est faux, street art, ça voudrait dire que c'est dans la rue, et moi, je peins pas dans la rue, très peu. Donc, du coup, ça sort un peu de son sens, mais. Mais ouais, moi je peux pas allier hip-hop et graffiti parce que. J'ai rien, enfin, je suis pas hip-hop.
Ah bah ouais, non, mais après, c'est ça qui est bonheur aussi, c'est de rencontrer des gens avec qui tu partages la peinture, mais pas forcément la même musique ou autre, quoi. Mais voilà, on s'entend bien, c'est pas parce qu'on n'écoute pas la même musique qu'on n'a pas les mêmes affinités. qu'on n'a pas les mêmes mots sur les mêmes choses, qu'on n'arrive pas à peindre ensemble. Et moi, je trouve que c'est ça revient à ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, la notion de partage, en fait. Moi, je trouve que c'est très important.
C'est clair.
Et peu importe ton âge, là d'où tu viens,
le partage du moment, partage du moment, partage du mur.
C'est difficile de classer, cataloguer le graffiti dans les mouvements culturels et artistiques. Moi, j'aime bien le rapport qu'il y a avec le hip-hop. C'est, par exemple, ce qu'on a fait, c'est trois travaux différents, assemblés par un fond. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait revoir dans une musique de rap classique où il y a plusieurs intervenants, plusieurs featuring, hein, ce qu'on dit.
Ouais.
Où tu vas avoir un son commun et trois façons de poser le son, les textes.
Ouais, c'est juste.
Voilà, en essayant de se coller au rythme en fait, de la musique. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même commun dans le graffiti avec le
partage.
Hip-hop. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne retrouve pas souvent dans d'autres mouvements musicaux, si on doit faire un rapport avec la musique et le graffiti. Voilà, c'est peut-être là-dessus. Mais on va dire que ça s'arrête là. On n'est pas obligé d'écouter du rap pour faire du graffiti, on n'est pas obligé
Mais je dois dire quand même que parfois, quand je graffe, j'écoute du rap et c'est stimulant pour le graffiti.
Ouais, ouais.
Ça va très bien ensemble. Ça va très, très bien ensemble.
Ça colle bien, ouais. Ça colle bien. C'est clair.
Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, en 99-2000, j'avais des dreadlocks. Et j'écoute aussi beaucoup de reggae, j'aime beaucoup. Après, j'écoute plein de trucs, mais c'est sûr que mon kiff, c'est le rap. Mais... Et j'étais tombé sur un mec à Toulon. C'était un black en plus. Tu vois, tu sais, moi, blanc avec les dreads, tu vois. Et il me dit, t'as rien à faire dans le graffiti. Tu dois écouter du reggae et ne pas taguer. Je lui dis, mais t'es qui pour me dire ce que j'ai à faire, tu sais, j'écoute ce que je veux et si je veux peindre, je peins. Quoi. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Moi, ouais, il m'a fait rire à l'époque. Tu sais, j'étais pas hip-hop, tu vois. Alors, putain, ça se voit qu'il me connaissait pas. Hein. Mais ouais, c'était marrant, quoi.
Ah, moi, j'écoutais autant du Public Enemy que Nirvana, quoi. Hein. Donc,
ouais, voilà.
Rage Against the Machine,
quoi. Beaucoup plus de Nirvana.
Rage Against the Machine aussi, mais bon, là, c'est déjà un petit peu hip-hop. Quoi.
Ouais. Donc, c'est vrai. tu glisses.
Ouais,
glisses,
je glisse.
Tu commences
tout
à glisser.
Doucement, tout doucement. Mais, non, après, c'est...
Comment ça? Aerosmith et DMC, du coup?
Aussi, oui, bon... Unique titre qu'ils ont fait ensemble.
C'est vrai,
hein,
mais il est bon.
Mais bon, puis quelque part, ouais, voilà, ils essayaient un peu de briser aussi ces frontières-là qui pour certains sont vraiment très ancrées. Si tu écoutes du rap, tu peux pas écouter du rock, etc. Enfin, c'est des mélanges que certains ne supportent pas, mais bon.
C'est comme dans tout, hein, à partir du moment où t'es sectaire, t'avances pas trop, quoi.
C'est ça.
Tu te mets des œillères et t'avances pas et tu partages pas avec qui que ce soit, et ça sert à rien, quoi. On va pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, après, voilà, il n'y a pas de frontières, il y a pas de, on s'en fout, c'est juste de la peinture, quoi.
C'est ça,
c'est juste de la peinture.
Et ça nous unit dans quelque chose de dans une émulation positive, et moi c'est ce que j'aime bien.
C'est ce que j'ai dit à la police quand ils m'ont attrapé, j'ai dit mais c'est juste de la peinture. Ils n'ont pas compris. C'est rien,
ça dépend le contexte.
Voilà, quoi.
Ça dépend de quel œil tu regardes. Là, c'est bon, c'est de la peinture. Non, là, c'est. Ah oui, là, c'est mieux.
Bon, ben, on termine sur une note d'humour. Et puis, je ne sais pas ce que vous pensez de la relève. Est-ce qu'il y aura toujours une relève des jeunes générations?
Ouais.
Je pense.
On finira là-dessus.
Ouais. Ça serait déjà enterré, sinon.
Ouais.
Ça serait déjà enterré.
Non, mais je pense que ça ne s'arrêtera jamais. C'est pas possible.
Ouais.
Parce que déjà, tout le monde aime écrire. Écrire son nom sur sa trousse, graver les tables d'école, je l'ai pas fait, mais il y en a plein qui le font. Dessiner pendant les cours, enfin je veux dire, c'est un truc qui est quand même dans... Et puis de toujours, l'homme a laissé des traces qu'on espère indélébiles. Et c'est une pulsion humaine, hein, je pense, de faire ça.
À propos de vous, enfin du graph, du tag, donc le tag c'est la signature, c'est Béatrice Frankel qui parle de ça dans une revue il y a longtemps. À propos des premiers graffeurs, elle dit qu'ils faisaient ça à New York en particulier, hein, Taki 183, etc., qui répétaient leur nom partout. C'était même pas ce que vous avez fait aujourd'hui sur le mur, c'était carrément écrit avec un feutre partout.
Le tag pur.
Elle dit que c'était to keep the name alive, pour garder son nom vivant, pour être présent toujours dans la société dans laquelle
il ne se sentait pas présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez fait ça dans cette philosophie aussi?
Alors, il y a une notion philosophique, psychologique dans sa façon de le présenter, mais c'est vrai que moi, les souvenirs que j'en ai au début, quand je taguais, avant de savoir construire des lettres et de dessiner, tu tagues. Tu fais que ça au début. Et c'est vrai que tu te sens vivant quand tu le fais. Franchement, c'est un truc, voilà. Je sais qu'il y a peut-être le côté adrénaline, tout ça, de faire quelque chose d'interdit parce que t'es jeune, machin et tout. Mais le fait de marquer ton nom partout, c'est quand même assez spécial. Tu fais un petit peu la promotion toi-même,
en fait. Pour ceux qui savent. Pour ceux qui savent, tu sais qu'ils vont lire ton nom. Et...
aussi, voilà. Ah, je t'ai vu là, je t'ai vu là, je t'ai vu là, je t'ai vu là.
La fame.
Ah, c'est... ouais, non, ça fait partie du truc complètement, quoi. Moi, je sais que... il n'y a pas longtemps, j'ai un collègue, il est parti peindre au fin fond du 06, pas l'endroit où je t'ai amené un autre. Il est arrivé, il a pris la photo du mur, parce qu'il a vu mon graphe, il me l'a envoyé partout. Il me dit, oh, c'est toi. Il a douté sur le coup, vu que c'est loin. Mais il dit, oh, c'est moi. Donc ça fait toujours plaisir de. Tu sais, ah, c'est lui, il est passé là. Bah, j'ai plus le truc de, quand j'étais minot, de taguer partout. Mais c'est vrai que quand je me déplace. Quand je voyage pas pour peindre, mais je l'intègre toujours dans mon voyage si j'y arrive.
Moi, je m'arrange pour poser un petit lettrage quelque part.
Merci, ma femme. Parce qu'elle a la patience de... mais je sais que c'est, voilà, ça me fait énormément plaisir à chaque fois. Quoi. Et quand je fais mes interventions avec les gamins dans le cours d'art plastique au collège, je sais qu'ils flippent complet quand je leur dis... moi, je présente juste mon truc tout simplement. Je dis, bon, bah, ça, c'est à Athènes. Ça, je l'ai fait à Batumi en Géorgie. Celui-là, je l'ai fait en Bulgarie. Celui-là en Espagne, machin. Mais t'as pas partout. Et c'est... moi, sur le coup, je percute pas. Parce que je fais que présenter mon truc. Mais quand je vois leur tête, tu sais, tu vois que tu les as percutés, tu vois. Donc après, quand tu les mets au dessin et tout, que tu vois qu'ils accrochent et tout, tu te dis, bon, ça a son effet quand même. Et c'est plaisant de se faire remarquer, mais d'une bonne manière, en fait. Donc, c'est quand t'es sorti du tag et que tu fais des trucs comme ça, t'es content d'en faire moins, mieux, mais quand même être vu encore, ça, tu conserves quand même le truc de le faire un peu partout. Sinon, je pense pas qu'on se déplacerait dans plein d'endroits différents pour le faire. Mmh. Ici, on pourrait venir, je sais pas, on pourrait se donner rendez-vous tous les mois, machin et tout. Mais non, on va en faire un là, on va en faire un à Aix, à Nice, à machin. Ah, tu gardes le truc, en fait, ça doit être notre cerveau reptilien, je sais pas. On doit avoir
c'est pour ça que vous êtes
comme les chiens, quoi. C'est ça. Moi, faut poser sa marque. Quoi.
Moi, je le fais pas trop pour que ça dure, en fait. Je peins pas pour que ça dure longtemps. Ouais. Je suis fier quand ça dure longtemps, parce que ça veut dire que les gens ont pas osé te recouvrir tout de suite. Mais vu que en général, 99% du temps, je vais pas donner un pourcentage exact. Du temps, je bosse, enfin, je peins sur des terrains. Tu sais que tu vas être recouvert, quoi, c'est le jeu. Et du coup, je le fais pas pour qu'il dure longtemps. Je le fais, je prends une photo, je suis content de ma photo, ou pas. Et voilà, je le fais pas pour que ça dure longtemps. J'ai perdu ce truc de mettre mon nom et de vouloir.
Ah non, ouais, non, ça c'est sûr que.
D'ailleurs, là j'ai fait un lettrage, j'en fais jamais, j'écris jamais mon nom, il y a juste les petits trucs là, et encore c'est pas lisible, et puis à 16 ça veut rien dire, et puis. Ouais, c'est assez discret quoi. Je fais pas ça pour trop divulguer, à part par les réseaux sociaux.
Nous voilà donc revenus de ce lieu urbex et de cette sympathique rencontre avec ces artistes, et quelque part je vous sens un peu frustré de n'avoir vu qu'un lieu urbex, donc. Je vous propose de vous en montrer deux ou trois autres de plus et on conclura ensuite. Voilà, par exemple, vous avez sous les yeux les anciens chantiers navals de la Seine-sur-Mer qui ont fait vivre ce port de la Méditerranée depuis le 19e siècle. Et les deux spots, comme disent les graffeurs, où ils pratiquent leur art, à savoir le spot chantier, un immense atelier, c'était l'ancien atelier de mécanique chaudronnerie, et le spot total sur la colline au-dessus, à savoir c'était les réserves de carburant pour la marine et pour les chantiers de la Seine. Ça, c'est la Seine-sur-Mer. Ici, un ancien sanatorium à Pierrefeu-du-Var, toujours dans le même département, qui vient d'être détruit. Et il y avait un immense bâtiment et d'autres bâtiments dans le parc, qui est un parc gigantesque, Et on y trouvait des choses à la fois extraordinaires, et c'était un lieu vraiment apprécié des graffeurs et autres artistes qui venaient carrément d'Europe entière pour faire des œuvres, et ils sont désolés évidemment du fait que ce bâtiment ait été détruit. Ici, dans une autre région, à Saint-Pierre-des-Corps, donc en Touraine, c'est une véritable cathédrale, c'est un endroit absolument extraordinaire. Ici, alors là c'est en Suède, à Sonastra, pas très loin de Stockholm, alors je peux le citer parce que c'est une immense, immense friche industrielle, mais où il y a encore des activités, et qui est gérée en plus de ça par le propriétaire du lieu qui y vit et qui anime carrément, qui fait des soirées, musique, etc., etc. Et vous pouvez y aller, alors donc je peux me permettre de le citer, mais il y a des kilomètres et des kilomètres de murs peints, de graffitis, aussi bien que d'œuvres. Puis il organise même un festival chaque année. Donc c'est à la fois c'est un lieu urbex, à la fois c'est un lieu où les artistes viennent, et il vous le dira si vous y allez, vous venez si vous voulez être heureux, vous pouvez vous installer où que vous voulez, et vous pouvez y être heureux. Donc voilà, je tenais à lui rendre hommage et à montrer en plus ces images qui sont extraordinaires. Et puis voilà, divers lieux un peu partout, avec, vous le voyez aussi, un aspect qui va faire partie de ma conclusion, cette œuvre de Plex en haut à gauche, dans un de ces lieux. Il a fait ça au début de la crise Covid, pendant le premier confinement. Voilà, Paris est d'un ciel gris pâle, et ce portrait de Marianne. Voilà, je terminerai sur ces images et sur ce que ça va appeler comme conclusion, ce que vous venez de voir jusqu'à présent. Voilà, finalement, pour conclure ce que vous venez de voir, je dirais que, et je le revendique, j'ai davantage posé de questions que donné de réponses. Je n'ai pas de réponse à de nombreux aspects concernant le street art, à la définition du mot street art, à sa délimitation, y compris dans le temps, aux différents styles, etc. etc. Et puis au concept d'artification. Est-ce que c'est vraiment rentré définitivement dans l'histoire de l'art? Voilà. En outre, se posent d'autres questions sur le lien avec d'autres formes d'art, que ce soit l'art brut, que ce soit les références à l'art dans les œuvres de street art. Là, il y aurait tout un travail à faire là-dessus, par exemple. Et puis, l'aspect politique aussi du street art, les messages qui sont sur les murs. Et Dieu sait si on pourrait faire une histoire de la politique, par exemple, des 40 dernières années, simplement à travers ce qu'on en voit sur les murs. Et ce serait intéressant à faire, ça pourrait même être très humoristique. Je pense à certains exemples. Voilà, donc évidemment, je ne peux terminer qu'en remerciant les artistes qui sont venus, à savoir No Hips, Need To, A16, et puis en remerciant évidemment Quentin, qui a fait le déplacement pour filmer tout ça et pour faire le montage, ce qui n'est pas un mince travail, et bravo à lui.